Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage reçoit aujourd'hui Doyle McKay. Doyle McKay, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Académie, au cœur de l'Institut de France à Paris. Vous nous venez de Montpellier. Alors, vous êtes américain d'origine, c'est ce qui vous vaut ce petit accent fort sympathique. Vous avez reçu il y a peu de temps donc, le prix Terra Ficaria, qui est le prix de la Fondation, un prix scientifique de la Fondation Yves Rocher. Un prix de 20 000 euros qui va certainement vous aider dans vos recherches. Alors, vous êtes professeur à Montpellier, Montpellier 2, à l'unité mixte de recherche au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, le CEF. Et alors, votre domaine, c'est le manioc. Vous allez pouvoir nous en parler en long, en large et en travers. Vous allez pouvoir nous parler de vos recherches que vous faites en Guyane, je crois.
Oui, dans la Guyane.
En Guyane. Comment vous êtes-vous intéressé? Pourquoi vous avez reçu ce prix Terra Ficaria pour ces travaux-là? Qu'est-ce que vous avez découvert? Comment nous allons pouvoir venir à en parler des fourmis aussi, en parlant du manioc? Vous allez nous dire tout ça. Mais alors, tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressé au manioc à la base?
À la base, donc il faut remonter à mes années de thèse. Mon patron de thèse, Daniel Janssen, grand écologue tropical, qui a mis en marche une vague de recherche sur les interactions entre plantes et animaux et coévolution dans les forêts tropicales et des autres écosystèmes tropicaux aussi. Et j'étais fortement impressionné par ses travaux. Une des choses que j'ai vues chez le manioc est qu'il y avait un polymorphisme de défense chimique chez cette plante. Il y a des variétés dites douces de manioc qui ne sont pas toxiques et des variétés dites amères qui ont des fortes teneurs en glucosides cyanogéniques.
Donc du manioc comestible et du manioc mortel, on va dire.
Oui, du manioc mortel, mais quand même consommé, mais après une préparation qui le détoxifie. Et ce qui m'a intéressé dans cet aspect, j'avais vu chez les plantes sauvages, qui était étudié par mon patron de thèse et d'autres, que les cas où il y avait un polymorphisme intraspécifique de défense chimique, des plantes dans une même population qui ont une défense et d'autres qui ne possèdent pas la défense, c'est vraiment des cas comme ça où on peut faire une étude vraiment propre, comparant des plantes avec et des plantes sans une défense, pour essayer de voir les coûts et les bénéfices d'une défense contre les herbivores et la dynamique évolutive de ces défenses. Un exemple, c'est le trèfle. Une trèfle européen, le Lotus corniculatus, il y a des plantes cyanogènes et d'autres qui ne possèdent pas de cyanure. Et on a vu avec ces plantes que les différentes formes toxiques et non toxiques ont des répartitions différentes et on peut comprendre ça en termes des coûts de cette défense et des bénéfices de cette défense en termes de protection contre les herbivores. Et ce qui m'a passionné d'abord sur le manioc était d'essayer de voir chez une plante domestiquée, comment ça marche. Pour le manioc doux, quels sont les bénéfices et les coûts? Et pour le manioc amer, avec une défense, quels sont les bénéfices de cette défense en termes de protection et quels sont les coûts?
Les bénéfices et les coûts de la plante, on va dire.
Hein? À la plante, oui. Voilà. Donc, les bénéfices, ça peut être une meilleure défense contre les pathogènes, mais les coûts, ça peut être des coûts métaboliques. Chaque molécule de défense que fabrique la plante ne peut pas être utilisée pour la reproduction ou pour la croissance. Donc, il y a un coût métabolique et il y a un bénéfice en termes de protection. Et en termes de bilan entre coûts et bénéfices, dans un milieu, les plantes non toxiques sera plutôt favorisées et dans d'autres milieux, les plantes plutôt toxiques. Mais avec le manioc, l'homme entre là-dedans. La plante a ses coûts et des bénéfices pour elle, mais ça s'est traduit par les actions des agriculteurs. Si une plante reçoit un bénéfice de la défense en termes de meilleure protection, peut-être cette plante sera plus productive. Si les agriculteurs remarquent ça, peut-être ils vont favoriser les plantes plus productives parce qu'ils sont mieux protégés. Mais aussi avec l'homme, les coûts et les bénéfices prennent une autre couche de complexité. Parce que les coûts pour la plante ne sont pas seulement les coûts biologiques, métaboliques pour la plante de fabriquer la défense, il faut aussi prendre en compte les décisions faites par les agriculteurs. Pour le manioc, éliminer ce toxine prend des heures de travail quotidien pour les femmes, surtout. Donc, c'est une décision culturelle et il y a certaines cultures où ça marche et d'autres où ce ne serait pas possible à cause d'autres contraintes sur l'emploi de temps des femmes.
Alors, justement, vous parlez des hommes, parlons-en deux minutes. Dans l'exposé que vous avez pu faire à l'Académie des sciences pour présenter vos travaux, justement, en recevant ce prix Terraficaria, vous expliquiez que 500 millions de personnes en vivaient trois fois par jour. C'était leur alimentation de base. Et pourtant, comme vous le dites si bien, c'est une plante qui peut être toxique. Alors, comment cela se fait-il que 500 millions de personnes puissent consommer une plante qui puisse être mortelle pour l'homme, ou en tout cas toxique?
Le manioc a été domestiqué en Amazonie. Il semble vers les marges sud de l'Amazonie, probablement il y a 8-10 000 ans. Le manioc sauvage, l'ancêtre sauvage de la plante, était probablement déjà toxique. Et donc, avant d'avoir inventé l'agriculture du manioc, les gens probablement avaient déjà l'habitude de détoxifier les racines du manioc sauvage. Ça fait longtemps que les Amérindiens savent exactement comment rendre cette plante comestible. Et on peut se demander pourquoi chez le manioc, cette toxicité n'a pas été perdue dans l'évolution. Il y a beaucoup de plantes domestiquées qui ont perdu leur principe toxique.
Leur défense.
Leur défense avec la domestication. Le manioc, non. C'est peut-être dû à deux choses. D'abord, le manioc, c'est une plante tropicale. Dans l'ère intertropicale, il n'y a pas d'hiver. L'hiver est une alliée aux plantes dans la zone tempérée. Les ennemis de la plante, les insectes phytophages, les champignons, les bactéries, chaque hiver, ils ont une forte mortalité et donc au début de la prochaine saison de croissance, ces ennemis sont réduits à des populations très faibles. Mais dans l'ère intertropicale, surtout dans la zone tropicale humide, les conditions pour la vie sont favorables toute l'année et donc les ennemis des plantes peuvent avoir un rythme effréné, ils sont toujours là et donc probablement les pressions de pathogènes, d'herbivores, etc. sont beaucoup plus fortes. Aussi, le manioc est cultivé surtout dans les systèmes d'agriculture itinérante où il y a des parcelles loin des villages, dans les forêts, les gens ne peuvent pas toujours être là, en train de chasser les herbivores qui mangent les plantes. Mm-hmm. Donc, les plantes sont laissées seules pour se défendre. Donc, c'est pas comme une champ de céréales où les gens peuvent être là, près de la récolte, et chasser les oiseaux et les autres animaux qui viennent manger les graines. Donc, le manioc, pendant ces deux ans de croissance, il faut qu'il...
Il faut qu'elle assure sa propre défense, cette plante.
Exact. Donc, dans un système comme ça, on peut voir qu'il y a encore un grand bénéfice, même pour une plante domestiquée, d'avoir une substance toxique, pourvu que les hommes savent comment l'éliminer.
Alors justement, comment font ces Amérindiens pour éliminer cette substance toxique et est-ce qu'ils vont aussi utiliser cette substance toxique pour leur propre consommation après, je ne sais pas, je crois que vous faisiez référence au déparasitage.
Oui, en fait, la substance responsable pour la toxicité dans le manioc, c'est une glucoside cyanogénique. C'est une molécule qui n'est pas toxique en soi. Il faut que cette molécule soit attaquée par une glucosidase, une enzyme qui le coupe en deux parties, dont une partie est la cyanure, l'acide cyanhydrique, HCN. Donc, dans la plante, il y a le glucoside et le glucosidase, l'enzyme, mais ils sont séparés dans deux compartiments cellulaires. Et donc, dans la plante vivante, le poison est encore caché et le glucosidase, il est dans un autre compartiment cellulaire. Donc, la plante ne s'empoisonne pas elle-même. Mais quand la structure cellulaire est détruite, par exemple par des champignons qui l'envahissent, ou quand la cellule est croquée par un insecte phytophage,
oui.
Là, la compartimentation est détruite. Le glucosidase, l'enzyme, vient en contact avec le substrat, le glucoside, paf, une glucose part et l'autre partie du molécule se dégrade spontanément pour donner le HCN. C'est ça le molécule toxique. C'est un poison respiratoire. Les concentrations présentes dans le manioc amer sont vraiment mortelles si on mange même en quantité assez modérée. Et donc, c'est la présence d'HCN dans la plante attaquée qui rend la plante toxique.
Alors, ce HCN, il faut l'enlever. Alors, il faut essayer de l'éliminer.
Faut l'enlever. Mais l'HCN, il est volatile, c'est un gaz qui se dissout. Il peut aussi se dissoudre dans l'eau. Donc, la technique de détoxification, c'est de râper ou de macérer les cellules pour mettre l'enzyme en contact avec le substrat. Et une fois qu'on a le HCN, on peut l'éliminer par diverses méthodes. Un moyen fréquent chez les Amérindiens, c'est d'abord de râper les racines avec une râpe. On fait une pulpe. Et cette action de râpage, ça prend plusieurs heures par jour. Il faut faire ça à l'air libre parce qu'il y a beaucoup de cyanure qui se dégage. Il ne faut pas faire ça dans un petit espace
fermé. C'est incroyable.
Fermé.
Jamais on pourrait imaginer que le manioc à la base soit aussi toxique.
Oui, mais si on râpe bien les racines, la pulpe, ça sent très fort. Et après, on met cette pulpe dans une engin qui s'appelle la couleuvre de manioc. C'est une tube en vannerie. D'abord, on comprime ce tube, on met la pulpe dedans.
Oui.
Et la couleuvre de manioc, il a deux anses. Il y a un, on peut mettre sur un poteau dans le
D'accord.
toit. Et l'autre, on met un levier et on s'assoit sur le levier. Et en tirant la couleuvre, le jus est exprimé de la pulpe. On met un panier dessous pour attraper le jus. Et ce jus est fortement toxique. Donc, tout le poison est dissous dans l'eau et part avec le jus. Et si le râpage a été bien fait, un seul passage dans la couleuvre de manioc détoxifie les racines, même les plus toxiques.
La personne qui râpe a une sacrée responsabilité. Hein.
Oui. On ne laisse pas à n'importe qui. C'est surtout les femmes qui assurent ce travail. Et donc, avec le jus, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ce jus. Il ne faut pas que les enfants ou les animaux domestiques le boivent parce que c'est vraiment très, très toxique. Et si on a un chien qui a des problèmes de puces ou de tiques, on peut laver le chien avec ce jus frais pour déparasiter le chien. Mais ce même jus, on peut aussi le rendre comestible. Donc, il y a plein de HCN, mais le HCN se volatilise. Après plusieurs heures d'ébullition, tout la cyanure est partie.
On fait bouillir, en fait, ce jus. Il se caramélise, on va dire.
Oui. Après quelques heures d'ébullition, le jus se caramélise. Ça fait quelque chose qui ressemble à un extrait de levure. C'est assez marron, assez salé. Et ça se conserve dans les bouteilles et on l'utilise comme condiment pour assaisonner les plats de viande ou de poisson.
Mais alors, là, on a abordé l'aspect nutritif du manioc. Vous êtes intéressé, dans la suite de vos recherches, à la culture de cette plante, et la culture clonale et la culture sexuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus?
Oui, dans mon étude du manioc et de sa toxicité, j'ai vu qu'il y avait des variétés douces et des variétés amères. Mais ce n'étaient pas deux groupes phylétiques bien définis. Il semblait avoir eu multiples passages entre variétés douces et amères et dans l'autre sens. Donc, c'est une trait évolutive labile. Et ça m'a amené à la question d'où vient la variabilité génétique qui a permis cette évolution. Parce que le manioc est une plante à propagation clonale. Qu'est-ce que cela veut dire, une propagation clonale? C'est-à-dire, au lieu de passer par les graines qui sont le produit d'un brassage sexuel, les Amérindiens propagent le manioc par des boutures de tiges de la plante.
C'est donc de la bouture.
Oui, on coupe un morceau de tige, environ 30 cm de long, ça varie, et ces morceaux de tige qui sont plantés dans le sol, qui donnent la nouvelle génération. Et donc, cette propagation clonale, il n'y a pas de brassage sexuel. Chaque plante, dans une génération, est une copie génétiquement identique à une plante qui a existé dans la dernière génération. Donc, il n'y a pas de génération de nouveautés. Donc, sans brassage sexuel, il n'y a pas de diversité qui est créée. Donc, la propagation clonale a d'énormes avantages agronomiques parce que, en dépassant, en laissant à compter, en contournant la reproduction sexuelle, le brassage sexuel, on peut reproduire exactement le phénotype qu'on veut.
On sélectionne en fait les deux plantes qui sont très rentables et on les remet ensemble.
Oui. Donc, un problème avec le manioc et la reproduction sexuée est que le manioc est une plante fortement allogame. C'est comme le pommier. Une plante qui a l'habitude de se croiser avec des individus génétiquement très, très différents. Exactement comme avec une pommier, si vous plantez un pépin de Golden Delicious, peut-être une fois sur 10 000, vous aurez un arbre qui va vous donner des fruits Golden Delicious. Les autres, ce sera un peu n'importe quoi, parce que les différents pères qui ont donné le pollen vont influencer les traits des descendants. Donc, les plantes allogames, comme le pommier ou comme le manioc, leur reproduction sexuée n'est pas fidèle au type. C'est-à-dire, les graines d'une plante qui a des traits favorables, les graines vont donner des plantes dont il n'y aura qu'une petite minorité qui vont reproduire ces traits.
Il y a une forte possibilité qu'il y ait des hybrides, en fait, c'est ça?
Oui, exact. Mmh. Et donc, pour être sûr de reproduire exactement ce qu'on veut, les agriculteurs prennent une bouteille d'une plante qu'ils veulent sélectionner et comme ça, ils peuvent reproduire exactement ce qu'ils veulent. Donc, il y a des forts avantages agronomiques. Mais à la longue, s'il n'y a que la propagation clonale et il n'y a pas la reproduction sexuée, un inconvénient à moyen terme et à long terme est qu'on va perdre la diversité génétique. Avec la propagation purement clonale, on ne génère pas de nouveaux génotypes et en plus on perd un peu chaque génération. Parce que dans chaque génération, ce n'est pas tous les clones qui seront propagés. Certains, favorisés par les agriculteurs, vont donner de nombreux descendants. Les agriculteurs, s'ils voient une plante qui se reproduit bien, ils vont faire peut-être 15-20 boutures de cette plante. Une autre qui ne produit pas bien, peut-être c'est par hasard, peut-être la plante a eu la malchance et elle ne sera pas reproduite. Et donc, il y a un clone qui est perdu et un autre clone qui est propagé, multiplié. Et donc, avec la propagation purement clonale, il n'y a pas de régénération de nouveaux génotypes et il y a une perte lente mais constante. Donc, à la longue, la reproduction clonale pure va tendre à une baisse de diversité génétique.
Alors, je vous propose de marquer une courte pause de Hugh McKay. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Doyle McKay qui vient de recevoir le prix Terra Ficaria de la Fondation Yves Rocher, un prix scientifique. Alors, nous étions sur la perte de la diversité génétique. Doyle McKay, la perte de diversité génétique du manioc, puisque c'est l'exemple sur lequel nous nous intéressons aujourd'hui dans notre émission. La perte de diversité génétique par une sélection clonale, par bouture en fait. Mais là, moi j'ai envie de vous poser une question, Doyle McKay, c'est finalement, est-ce que c'est vraiment un risque qu'il y ait une perte de diversité génétique si on arrive à faire des nouvelles plantes par voie clonale? Est-ce que c'est si important que cela?
Oui, c'est important parce que le milieu change. Le climat varie d'une année à une autre. Mais surtout, le milieu biotique, c'est-à-dire les pathogènes, les herbivores de la plante, sont en constante évolution. Donc, un génotype qui est bon pour aujourd'hui n'est pas forcément bon demain. Et donc, comment contourner ces risques? Il faut que la population garde un potentiel adaptatif.
Vous voulez dire qu'en fait, en perdant sa diversité génétique, il perd aussi de son adaptation au climat à venir, aux conditions climatiques à venir.
Si une population de plantes est génétiquement homogène, cela veut dire qu'il peut être très bien adapté aux conditions d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un pathogène qui s'adapte à un génotype très répandu dans les agrosystèmes et découvert le moyen de contourner les défenses de ce génotype et de se reproduire et en attaquant ce génotype. Il peut faire des ravages. Ça s'est déjà passé chez des plantes domestiquées. Il y a quelques années, la plupart des productions de maïs aux États-Unis était dominée par une hybride. C'était une hybride très vigoureuse, plantée partout, tellement plantée partout que c'était le cible d'un nouveau pathogène qui l'a décimée. Et donc, ça a vraiment mis un frein à la production de maïs pendant un peu de temps. Il fallait inventer une nouvelle variété. Les Amérindiens, ils n'ont pas accès à la biotechnologie, etc. Donc, il faut qu'ils fassent leur propre amélioration génétique traditionnelle dans le champ.
Vous arrivez aux Amérindiens, c'est là où effectivement je voulais en venir, puisqu'il y avait quand même un certain mystère chez les Amérindiens, là où vous êtes allé donc travailler, ou peut-être d'ailleurs vous allez retourner, je ne sais pas.
Oui, vous allez retourner en Guyane.
Alors, ce mystère-là, c'est que ces cultivateurs qui cultivent donc le manioc par voie clonale conservent pourtant une grande diversité génétique. Et donc, c'était le mystère sur lequel vous êtes penché. Comment cela se fait-il qu'il y ait une grande diversité génétique alors qu'ils conservent une culture par bouture? Alors voilà, maintenant vous allez pouvoir nous l'expliquer.
Ok. D'abord, il fallait documenter cette diversité génétique chez les Amérindiens. Donc, avec un premier étudiant en thèse, Marianne Elias, on a recensé les variétés de manioc cultivées dans un seul village amérindien, dans le Guyana, l'ex-Guyane britannique. On a trouvé qu'ils avaient 76 différentes variétés dans un seul village. Et ces études génétiques ont montré que la diversité génétique au sein de cette collection de variétés dans un seul village dépassait la diversité génétique qui était présente dans la première collection ex situ dans le monde du manioc, dans un grand centre de recherche agricole en Colombie. Il y a une grande collection de manioc dont le boulot est de conserver les ressources génétiques de manioc dans le monde. Et son étude a montré qu'au sein d'un seul village amérindien, la quantité de diversité génétique dépassait celle présente dans cette collection. Donc, on savait qu'il y avait une grande diversité génétique. Ça pose la question, après des millénaires de propagation clonale, comment il y avait tant de diversité. Donc, nous avions déjà une petite idée qu'il y avait de la reproduction sexuée cachée là quelque part. Donc, on voulait regarder comment ça se passe. Donc, c'était une étude qui mélangeait l'ethnobotanique, parce qu'il fallait savoir les pratiques, les savoirs des Amérindiens, l'écologie, l'agronomie, mais aussi la génétique pour documenter l'effet.
Plusieurs disciplines nous mêlent ensemble.
Oui, et la relation entre savoir et pratique et diversité génétique. Et on a trouvé qu'en fait, le système de reproduction de manioc sous la gestion amérindienne était mixte. Il fallait voir non seulement ce que les Amérindiens font, et là, leur propagation de la plante est purement clonale. Ils plantent jamais les graines, ils plantent les boutures de tiges. Mais le manioc a gardé sa fertilité sexuelle. Et en fait, le manioc domestiqué a une double vie.
Alors, expliquez-nous cette double vie.
Ok, la double vie, d'abord, est la propagation clonale qui est gérée par les agriculteurs. Ils plantent les clones de manioc dans des parcelles. Ces parcelles sont créées par l'agriculteur itinérant sur brûlis. C'est-à-dire, les Amérindiens ont un terroir de forêt secondaire qu'ils laissent pousser après des années de culture. Ils le laissent pousser peut-être 10, 15, 20 ans.
C'est la jachère, tout simplement.
La jachère, oui. Après, ils reviennent à une jachère. Ils coupent la végétation d'une parcelle pendant la saison sèche. Ils coupent, ils le laissent sécher. Et à la fin de la saison sèche, anticipant les pluies, ils le brûlent. Et donc, c'est les cendres de cette végétation brûlée qui créent la richesse temporaire du sol qui va permettre une culture.
Qui apporte des nutriments, un sol fertile.
Oui. Dans cette parcelle, au début du cycle, ils plantent les boutures poussent, et après 18 mois, 2 ans de culture, on les récolte. On récolte les tubercules, on prépare les boutures, on les amène à une autre parcelle qu'on a coupée et après on laisse la parcelle en jachère. Ça c'est la première composante de cette double vie. La deuxième composante de cette double vie, c'est la reproduction sexuée, qui a lieu chez le manioc domestiqué, exactement comme dans n'importe quelle population de plantes sauvages. Le manioc a gardé sa fertilité sexuelle. La plupart des variétés produisent pas mal de fleurs. Les fleurs sont pollinisées par des petites abeilles sociales, sondards. Ça s'appelle des abeilles trigones. Elles semblent être les principaux pollinisateurs. Elles visitent les fleurs. Mm-hmm. Après, il y a production de fruits. Le fruit du manioc, c'est une capsule à trois carpelles. Donc, une petite capsule comme une capsule de ricin. Et sous le soleil, la capsule mature devient de plus en plus sèche. Et à un moment, la capsule explose sous le soleil, relâchant les trois graines à l'intérieur. Ça s'appelle une dispersion balistique. Vraiment, on entend exploser la capsule, ping, et les petites graines.
Vous faites bien le bruit de la capsule qui explose. Donc ces graines sont disséminées ?
Sont disséminées. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que chaque graine a un petit corps lipidique à un bout, un petit objet crémâtre, qui s'appelle une éliosome, ça c'est grec pour corps lipidique, et en fait c'est un petit objet bourré de lipides, d'acides aminés et de sucre. Les graines sont là avec leur éliosome, et qu'est-ce qui arrive? Les fourmis.
C'est là qu'interviennent mes amis les fourmis. Une des parties passionnantes, même si tout est passionnant, une des parties en tout cas moi qui me passionne beaucoup. Alors voilà, venons-en aux fourmis. Les fourmis viennent chercher ces graines, attirées par le sucre?
Oui, elles sont attirées par l'éliosome et ils essaient d'abord de couper l'éliosome de la graine. La graine en elle-même ne les intéresse pas. C'est des fourmis carnivores et ces éliosomes ont une composition chimique qui ressemble à celle d'un insecte mort. Ils essaient d'abord de couper l'éliosome parce que ça les fatigue de porter l'ensemble.
Bien sûr.
Mais la plante est faite de façon que l'éliosome est très fermement attaché à la graine. Donc la fourmi parfois se fatigue pendant 30-40 minutes en essayant de couper l'éliosome, n'arrivant pas. Finalement, la fourmi tire la graine vers le nid.
Elle va donc planter la graine?
Oui, elle amène la graine dans la fourmilière, l'amène au couvain, donc là où il y a les larves dans le nid, et il grignote les lysomes et il donne ces substances aux larves. C'est vraiment un apport de nutriments à la colonie de fourmis. Donc les graines sont déposées dans les nids de fourmis et c'est là dans les nids de fourmis où les graines, une fois que les lysomes est mangé, va rester dormante. La graine va rester dans le sol pendant toute la jachère et ce n'est que l'arrivée du prochain cycle de culture que les conditions après le brûlis, donc le sol réchauffe, oui. Une fois que la parcelle est mise à nu, sans couverture végétale, le sol chauffe, la graine perçoit ce signal thermique.
La chaleur va être un signe.
Oui, la chaleur, ça va déclencher la germination. C'est en quelque sorte comme si la graine sait que il n'y a plus de couverture végétale, il n'y a pas de compétition, un peu d'eau et bon, je peux germer. Et j'aurai pas de compétition.
Mais alors, combien de temps peut rester une graine dans un nid de fourmis, par exemple, avant de germer? Elle peut rester très très longtemps en sommeil?
Oui, il semble que des graines de manioc, selon les anecdotes pour l'instant récitées par les Amérindiens, il semble qu'il peut y avoir des germinations de graines de manioc dans une jachère qui a, dans le dernier cycle de culture, date de 40 ou 50 ans. Mais pour la plupart, les jachères sont plus courtes, mm-hmm. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il semble que la plupart des graines de manioc, ils peuvent rester dormantes dans le sol là. Parce que quand on fait un recensement de plantules issues de graines, dont des jachères d'âges différents, donc on regarde une parcelle qui a été brûlée après 5 ans de jachère et une autre qui a été brûlée après 15 ans de jachère, la densité de plantules est la même. Donc il semble qu'il n'y a pas une très forte mortalité dans le sol. Mais ça c'est quelque chose pour les recherches futures. Aussi, on va essayer de dater ces graines en utilisant le carbone 14, mais ça c'est une autre histoire.
Mais alors, ce dispositif qui est quand même assez extraordinaire, c'est que la plante semble intelligente quand même. Elle sait qu'un petit insecte va pouvoir aller planter sa graine pour assurer les générations suivantes de la même espèce de plante. Est-ce que ce principe-là est valable pour d'autres espèces végétales ?
J'ai raccourci énormément. Bien sûr, la plante ne sait pas ça. tout ça, c'est les produits de l'évolution par la sélection naturelle. Il y avait de la variation et des plantes qui avaient cette combinaison favorable de caractéristiques ont mieux survécu que les autres. Mais le manioc est un exemple d'un grand groupe de plantes qui vit dans des milieux périodiquement perturbés, par exemple par les incendies, qui ont des graines possédant des adaptations pour un stockage dans le sol pour une longue période de dormance entre les perturbations. Et là, ça se voit déjà chez l'ancêtre sauvage du manioc, qui est une plante adaptée à l'écotone entre forêt et savane. Un milieu dynamique où il y a des perturbations, donc une même zone peut être une savane, après une perturbation. Après, il y a la succession écologique, la végétation se referme, ça redevient une forêt secondaire, le manioc disparaît, mais il ne disparaît pas vraiment parce qu'il est présent dans la banque de graines dormante dans le sol. Après, une nouvelle perturbation, il réapparaît.
Ces fourmis, est-ce que nous, on pourrait les retrouver ici en France et avoir des cultures de manioc par nos fourmis françaises, par exemple?
C'est pas exclu. Parce que l'attraction aux élaïsomes n'a rien de spécifique. La plupart des fourmis en Guyane que nous avons testées sont attirées par les élaïsomes. Les seules fourmis qui ne sont pas attirées par les élaïsomes, c'est les fourmis champignonistes, les fourmis coupeuses de feuilles. Mais la plupart des fourmis carnivores ou charognards, ils sont attirés à ces élaïsomes. Mais il n'y a que peu de fourmis qui ont la taille nécessaire et le comportement nécessaire pour porter les graines dans le nid. En effet, il y a une seule espèce de fourmis en Guyane qui semble vraiment très importante dans la dissémination. Mais l'attraction des fourmis par cette élaïsome est une très générale. Et on sait aussi que dans les continents où le manioc a été introduit, les fourmis dans ces zones sont attirées aussi par les élaïsomes de manioc. Et c'est des fourmis autres que ce qu'on trouve en Guyane. En France, il y a dans nos forêts, il y a pas mal de plantes qui ont des élaïsomes et dont les graines sont disséminées par les fourmis. Mais la plupart ont des graines et des élaïsomes beaucoup plus petites. Le manioc, ça c'est une des plantes myrmécocores, c'est-à-dire disséminées par les fourmis, avec les élaïsomes et les graines les plus grandes. Donc la plupart de nos fourmis seraient trop petites pour pouvoir disséminer les graines
de manioc. Pas assez costaud.
Exact.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause de l'Ulmaqué. On se retrouve tout de suite après pour la fin de notre émission. À tout de suite.
Partager le savoir, c'est la découverte avec nos journalistes de la présence de la langue française dans le monde. Avec Christa Leuc, vous rencontrez les directeurs des alliances françaises.
Suite de notre émission éclairage, un éclairage sur le manioc, sur les voies clonales, voies sexuées, en compagnie de Doyle Mackay. Doyle Mackay, nous nous sommes quittés sur les fourmis. C'est nos amis les fourmis qui arrivaient en fait à planter les graines tout simplement de manioc et qui alors par plusieurs étapes faisaient que des plantes sauvages allaient pouvoir pousser. Mais alors, ces Amérindiens qui savent si bien manier voie clonale et voie sexuée, avaient-ils vent de la participation des fourmis, tout simplement?
Il semble que non. Ils savent que les plantes issues de graines dans leur parcelle, ils savent que ça provient des plantes, des graines qui étaient produites par les plantes dans le dernier cycle de culture. Il ne semble pas qu'ils savent que c'est les fourmis qui les ont plantées. Donc, ce qui se passe, après le brûlis, quand ils plantent leur bouture de tige de manioc, en même temps, ces plantes issues de graines, qui étaient plantées par les fourmis lors du dernier cycle de culture et qui sont restées pendant toute la jachère dormante dans le sol, ces graines germent en grand nombre juste après le brûlis. Donc, en même temps qu'ils plantent les boutures, il y a un tapis, parfois, de plantes issues de graines qui arrivent. Les Amérindiens savent que ce n'est pas eux qui les ont plantées, mais ils savent que c'est du manioc domestiqué. Et donc, ils observent ces plantes, ils sont très intéressés par ces plantes issues du Rhin. Et quand ils font un désherbage, ils n'enlèvent pas ces plantes issues du Rhin. Ils les observent. Ils ne les bichonnent pas, ils ne font rien de particulier avec ces plantes, mais ils les observent, ils les laissent pousser. Et au fur et à mesure, les plantes qui survivent, il y a certaines qui vont devenir très vigoureuses. Et les Amérindiens regardent ça avec une grande attention. Et ils arrivent à la plupart de ces plantes, ils arrivent à les assimiler à l'une ou l'autre de leur variété nommée. Ils disent que ça c'est une plante issue du Rhin, mais crash water stick. Ça c'est une plante issue du Rhin, mais c'est water turtle egg stick.
Il y a un nom pour chaque
Oui, chaque variété a
ça,
un nom.
Ça, c'est assez curieux.
Par exemple, le water turtle egg stick, c'est la variété dont la surface de la tige ressemble aux œufs de la tortue aquatique. Donc, les noms des différentes variétés sont parfois assez évocateurs. Et dans ce village, il y avait 76 différentes variétés. Et les plantes issues
du Rhin... Donc, 76 noms différents.
76 noms différents. Et qui correspondent vraiment à des entités biologiques distinctes, avec des traits phénotypiques différents, avec couleurs de racines différentes, avec des cycles différents, avec une architecture différente. Et parfois avec des utilisations différentes.
Alors, peut-être qu'il y avait un trio de têtes dans les plantes, des trois plantes préférées sur les 76 variétés.
Oui, il y a trois ou quatre variétés qui étaient très fréquentes parce qu'ils produisaient bien. Surtout, une ou deux variétés qui produisaient une farine de manioc très jaune, c'est-à-dire riche en carotenoïdes, étaient vraiment bien prisées. Donc, trois ou quatre variétés vraiment abondantes, mais quand même 76 différentes variétés dans le village. Les différentes plantes issues du Rhin, les Amérindiens pouvaient assimiler presque chaque individu issu du Rhin à une ou l'autre variété. Les plantes qui arrivaient à survivre jusqu'à la récolte, celles qui étaient les plus vigoureuses,
oui.
Les Amérindiens ont décidé « Oh, je vais ajouter ça, cette plante, à mon stock de bouture de Water Turtle Egg Stick ou mon stock de bouture de Nazaré Stick ».
En fait, c'est une sélection génétique avant l'heure, tout simplement.
Oui, c'est comme ça qu'ils arrivent à ajouter de la diversité génétique dans leur stock de clones. Donc, à chaque récolte, il n'y avait pas seulement les clones qu'ils ont multipliés la dernière fois, il y avait aussi quelques nouveaux arrivants. Des plantes issues du Rhin qui, à la fin, les Amérindiens ont jugé suffisamment intéressant qu'ils préparaient des bouteurs. Donc, chaque génération, il y avait de nouveaux génotypes ajoutés au stock de clones de chaque variété. Donc, en fait, on a trouvé qu'une variété n'est pas un seul clone, mais un groupe de clones assez diversifiés qui partageaient les mêmes traits phénotypiques. Et rarement, très rarement, une plante issue du Rhin était observée et les Amérindiens ont arrivé à la conclusion que ça c'est tellement différent, on ne peut pas le caser dans les variétés existantes. Et parfois, les plantes issues du Rhin sont multipliées séparément et on leur donne un nouveau nom. Donc, on a documenté non seulement comment une variété peut avoir plusieurs clones, parce qu'à chaque génération, il y avait de nouveaux clones issus de la reproduction sexuée qui étaient ajoutés, mais de temps en temps, il y avait même une nouvelle catégorie nommée qui est arrivée et qui a joint le stock de variétés.
Oui.
Donc, création de variétés sur place.
Et puis, comme vous le disiez au tout début de l'émission, c'est que la plante, le manioc, est allogame, donc par voie sexuée. Ça peut être des êtres totalement hybrides en plus qui peuvent naître et s'associer à ces plantes par voie clonale.
Oui, il y a une grande diversité dans les descendances. En fait, chaque plante issue du Rhin a un génotype complètement unique. Donc, une énorme diversité qui est générée.
Alors, Doyle McKay, vous avez reçu le prix Terraficaria, qui est un prix, on peut le dire, de 20 000 euros. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce prix? Est-ce que vous allez développer d'autres recherches ou accentuer encore un peu plus dans ce domaine-là? Vous allez repartir donc au mois de janvier en Guyane. Quels vont être vos travaux? Est-ce que vous allez changer totalement ou est-ce que vous allez poursuivre dans ce domaine-là?
Je vais maintenir mes études en Guyane, mais le projet que j'ai proposé pour le prix Terraficaria, c'était de regarder le manioc dans les aires d'introduction. Le manioc a été domestiqué en Amazonie, mais maintenant il est pantropical. En fait, il y a plus de manioc cultivé en Afrique aujourd'hui qu'en Amazonie. Donc le manioc est implanté un peu partout. Il a été introduit en Afrique dans le XVIe siècle. Il a été introduit en Asie et en Océanie plus récemment. Et une question qui m'intéresse, donc on a vu que les pratiques amérindiennes, leurs connaissances et leurs pratiques concernant les plantes issues du grain, ça c'était important pour la dynamique de la diversité de leur population. Mais qu'en est-il dans les pays d'introduction? En Afrique, le manioc a été introduit, mais les savoirs et les pratiques amérindiennes n'ont pas été introduits.
Donc c'est uniquement par voie clonale, par exemple, qu'on cultive le manioc en Afrique?
Justement, on ne sait pas. L'Afrique est un grand continent et ça me surprendrait si on pourrait faire une généralisation comme ça. Mais ce qu'on peut dire est que quand le manioc était introduit en Afrique, les Portugais, les gens qui l'ont introduit, ils savaient qu'on pourrait propager le manioc par des boutures de tiges. Ils ignoraient toutes les pratiques amérindiennes d'observation des plantes issues du grain. Donc, je me suis posé la question, en Afrique, comment est-ce que les gens vont traiter cette plante? Est-ce que dans ce continent d'introduction, les gens vont tendre vers un système plus strictement clonal? Ou est-ce que les gens vont inventer ou réinventer les savoirs et les pratiques amérindiens? Il y a un étudiant en thèse que je co-encadre qui est au Gabon en ce moment, en train de regarder cette question. Et sans dévoiler trop, et aussi les résultats ne sont que préliminaires, ce qu'on observe en Afrique est une énorme diversité de pratiques. Il y a certains villages qui ont une très grande diversité variétale de manioc, il y a d'autres qui ont quelques variétés seulement. Et entre ces différents groupes, il semble aussi qu'il y a une hétérogénéité de savoir et de pratiques concernant les plantes issues du grain. Il y a certains individus ou certains villages où les gens ignorent ces plantes issues du grain. Il y a d'autres où les connaissances sont plus poussées. Donc, en contraste avec l'Amazonie amérindienne, où ce savoir est bien implanté et partout depuis des millénaires, en Afrique, on peut voir une situation vraiment dynamique et hétérogène. Et on peut voir peut-être la culture en train de s'adapter à cette plante en temps réel. Ces recherches sont intéressantes parce qu'on peut voir l'adaptation culturelle des gens au manioc en temps réel, mais c'est aussi un enjeu de développement durable. Parce que si le régime de reproduction de ces plantes tend vers un système plus strictement clonal, ça aura des conséquences de perte de diversité. Les plantes devraient devenir plus susceptibles aux attaques de virus et d'autres pathogènes.
Voilà, c'est ça derrière.
En effet, en Afrique, il y a beaucoup plus de problèmes avec les pathogènes viraux de manioc qu'en Amazonie. Et on se demande, est-ce que ça c'est parce qu'ils n'ont pas assez pratiques qui favorise la diversité génétique. Donc, il y a une question de développement.
D'ailleurs, cet intérêt, en fait, pour la question de bouture ou la question de voies sexuées, c'est tout simplement de savoir si il y a plus de risques en Afrique d'avoir des cultures nulles et donc, à conséquence de ces cultures nulles, des problèmes d'alimentation de la population, en fait, c'est ça?
Exact. Donc, la question est de d'abord recenser le savoir en Afrique, voir s'il y a vraiment un risque, parce que les gens n'appliquent pas ces pratiques prouvées de gestion d'une plante à propagation clonale. Et après, la question plus délicate, si ces savoirs et ces pratiques ne sont pas là, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de les diffuser, d'introduire, de suggérer que les gens doivent adapter leurs pratiques? Là, c'est une question délicate, l'innovation. Mais on est toujours au stade préalable de recenser les savoirs et les pratiques et la diversité dans ces savoirs et pratiques qui existent.
Donc, dans les années à venir, vous allez quitter les Amérindiens, vos amis les Amérindiens, pour partir en Afrique, par exemple?
Quitter temporairement. Je vais maintenir une implantation en Guyane et par le biais d'un étudiant en Afrique. Avec le prix Terrificaria, on a proposé un projet à Océanie, une autre terre d'introduction du manioc dans l'archipel du Vanuatu. Là, les agriculteurs ont des traditions de végéculture, de propagation clonale d'igname, de taro, de bananier, depuis des milliers d'années. Est-ce que ces gens qui ont une longue tradition de plantes à propagation clonale, est-ce qu'ils vont déchiffrer la biologie de manioc très très vite? Est-ce qu'ils vont appliquer au manioc, par exemple, le savoir qu'ils ont déjà appliqué à d'autres plantes?
Donc vous allez partir aussi un petit peu en Océanie.
Exact.
Eh bien, on vous souhaite bon voyage alors, Doyle McKay. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Montpellier 2, au CEF, Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Et c'est ce qui nous vaut donc d'avoir eu un cours aussi passionnant sur le manioc et l'intérêt finalement de s'intéresser à des plantes. On pourrait dire, voilà, finalement, ça pourrait être un peu anecdotique de s'intéresser à savoir si les boutures ou si la dissémination par graines, c'est finalement très différent et important pour l'homme, et on se rend compte finalement qu'il y a quand même des conséquences, d'où l'intérêt de s'y intéresser. En tout cas, merci d'être venu nous voir, et puis à une prochaine fois peut-être, en direct du Vanuatu ou du Gabon. Merci de votre visite et à très bientôt.
Merci pour l'occasion.
Merci, au revoir.